RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story à 10h02, avec autour de la table pour finir la semaine, maître Sandrine Pégan, le chef d'entreprise Emmanuel Devilliers et l'éducateur Abel Boyer. De quoi va-t-on parler jusqu'à 11h? Tiens, vous avez vu, il y a des nouvelles consignes sur la façon de filmer l'athlétisme féminin. Mm-hmm. Désormais, fini les cadrages suggestifs à la télévision. On n'aura plus le droit de montrer de près le corps des femmes, des athlètes féminines. Alors ça vaut d'ailleurs pour les femmes, mais pas pour les hommes. A priori, ces nouvelles règles, est-ce dommage. Que c'est légitime ou est-ce que vraiment c'est absurde? C'est la nouvelle censure, le nouveau puritanisme. Qu'est-ce que vous en pensez? On parlera tout à l'heure à 10h40. Et vous avez vu que les vieux briscards sont de retour. Bernard Cazeneuve, François Hollande.
Les éléphants.
Les éléphants du PS sont de retour. Ils ont bien l'intention de jouer un rôle de premier plan dans cette présidentielle. Est-ce qu'on en a besoin? Ont-ils une chance? Les grandes gueules répondront à cette question. Mais avant cela, on va revenir sur ce que Gérald Darmanin avait demandé, à savoir, après le scandale, le fiasco judiciaire de l'affaire Liana, il avait demandé au parquet de revisiter, de revoir tous les dossiers concernant la pédocriminalité, concernant les violences sexuelles contre les enfants. Il a donné des chiffres, ils sont assez effarants. 2 demande à tous les parquets de revoir l'ensemble des plaintes. En fait, près de 70 000 dossiers ont été revus sur l'ensemble du territoire. Près d'un millier de dossiers de pédocriminalité ont été classés prioritaires. Alors pourquoi? Parce que c'est-à-dire, c'est prioritaire, c'est des dossiers dans lesquels l'auteur est identifié, il possède des antécédents judiciaires et où la victime est toujours mineure. Et puis, on a décidé d'incarcérer 675 personnes depuis le 8 juin impliquées dans ces affaires de violences sexuelles contre les mineurs. Donc, on se dit, réflexion de bon sens, finalement, si on n'avait pas réexaminé ces dossiers, il y aurait 675 personnes dans la nature, alors qu'il fallait les enfermer. Est-ce que c'est effarant? Est-ce que vous dites qu'il y a un problème, décidément, dans le fonctionnement de notre justice? Emmanuel Devilliers.
On voit que la réponse du gouvernement est toujours très politique, très médiatique. J'ai déjà expliqué ici que notamment le président de la République et son entourage, par imitation, en fait, gouvernent au bruit. C'est-à-dire qu'ils regardent les chaînes infos, ils écoutent la radio éventuellement, et en fonction des thèmes et de la puissance médiatique en écho avec l'opinion, ils gouvernent. Normalement, le gouvernement, c'est l'inverse. On sait ce que l'on veut faire, on le fait dans l'intérêt général, peu importe si on est populaire ou impopulaire, parce que le but, c'est finalement d'être populaire à la fin, parce qu'on a ramené le pays dans la bonne direction. Là, 675 personnes incarcérées, soudainement, alors qu'on proclame partout que pour des délits très graves, il n'y a plus de place dans les prisons.
Là, on trouve de la place.
Ça paraît incroyable. Et une autre expression tout à fait inopportune du garde des Sceaux, M. Darmanin, il dit, il y a eu 960 dossiers prioritaires, soit 1% du stock. Il s'exprime comme un logisticien. Tout à fait étonnant.
Alors que ce sont à chaque fois des histoires humaines.
Et puis il y a un autre truc, parce qu'on parle de 70 000 plaintes. Non, c'est monté à 85 000, parce qu'on a découvert que 15 000 plaintes n'avaient même pas été transmises au parquet. Donc moi, je fais attention à la fausse joie, parce qu'on peut se dire, c'est bien, ça avance. Non, on est en train de redécouvrir l'ampleur des dysfonctionnements. Et qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Darmanin, pour nous faire de la poudre de perlimpinpin? Eh ben, comme par hasard, l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels sur les enfants, c'est passé en première lecture. Ça fait des années que les victimes les demandent. Ben là, pour acheter un petit peu la paix sociale, pour gagner un petit peu de temps. Mais la problématique, c'est quoi? C'est que, comme tu l'as dit, il y a des dossiers prioritaires où des victimes sont toujours mineures, mais il y a toujours la question de la prise en considération de la parole de l'enfant, de la parole de la victime. La victime qui est devenue majeure aujourd'hui dans sa manière de se défendre, ça va plus être pareil. Donc moi, je suis très méfiant, honnêtement. Je n'arrive pas à me réjouir, alors que je vois beaucoup dans les réseaux de victimes des gens qui disent c'est génial. Je sens qu'il y a un loup derrière, en fait.
Tout ça est dû à une surréaction suite à la polémique médiatique.
Oui, il n'y a pas un vrai engagement sur la protection de l'enfance.
Mais moi, je vais plus loin. 675 personnes en prison. À mon avis, il y en a peut-être 300 ou 400 de trop. Alors même... Parce que c'est une surréaction, il a fallu montrer à l'opinion française qu'on était efficace.
Oui, en même temps, ça n'a pas été inutile, ce réexamen, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait 675 personnes qu'il fallait mettre en prison, Sandrine Pégan.
Il faut quand même se réjouir que l'on traite enfin des dossiers qui dormaient. Ça, c'est une réalité. S'il y a des individus dangereux qui ont été identifiés, eh bien, qu'ils soient poursuivis, c'est normal. Si les critères légaux sont réunis pour qu'ils soient placés en détention, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas faire croire aux Français que le problème est réglé.
Exactement.
Et puis, alors attention aussi, je préfère vous le dire, parce qu'en tant qu'avocat pénaliste, je me le dois, c'est que c'est pas parce que c'est incarcéré, ça veut dire, donc là, on se demande si c'est détention provisoire ou c'est suite à des jugements qui auraient donné lieu à des mandats de dépôt et donc des incarcérations immédiates. Mais si ce sont des détentions provisoires, on est dans le cadre d'une information judiciaire. Il y a la présomption d'innocence qui s'applique, et je suis désolée de vous le dire, mais je le répète et je le ferai tout le temps parce que c'est notre droit et notre état de droit. Et donc, ça ne veut pas dire que les personnes sont coupables et qu'elles seront reconnues telles quelles. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est bien qu'il y ait un stock qui ait été amoindri, mais en effet, le problème n'est pas encore résolu.
Il y a de la poudre de perlimpinpin, parce que lorsque les médias vont interroger des magistrats de façon indépendante, tous te disent qu'ils sont débordés et qu'ils savent pas comment ils vont vraiment réussir à tout traiter. C'est extrêmement compliqué. Et
déjà, visiblement, quand on veut accélérer, on peut, parce que tout d'un coup,
oui, mais en détriment d'autres dossiers,
voilà,
c'est ce que j'allais
dire. La justice manque de moyens. Tu mets tout le monde dessus. C'est-à-dire que demain, on va gérer d'autres carences. Et je suis désolé. Tu veux communiquer sur quelque chose? Communique sur quelle prévention tu mets en place pour la protection de l'enfance, pour que justement ces cas de pédocriminalité arrivent moins. Là, c'est un petit peu ce que je dirais, c'est de la politique Sarkozy, c'est-à-dire faut annoncer du chiffre pour dire que, mais oui, là c'est Noël, on a des chiffres, on a l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels commis sur les mineurs. Moi, je dis attention, l'affaire, elle est loin d'être réglée.
Alors, nous sommes avec Olivier qui nous appelle de Béziers dans l'Hérault. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour.
Alors, vous, ce qui vous interpelle, c'est ce chiffre de 675 personnes qui ont été incarcérées depuis le 8 juin, depuis donc que Gérald Darmanin ait lancé cette procédure.
Oui, tout à fait, parce que pour moi, c'est un aveu d'échec de la politique qui a été menée pour notre justice depuis maintenant des décennies. Là, on nous explique en fait qu'il y a 675 personnes qui, donc potentiellement, parce qu'il y a la présomption d'innocence, comme l'a très bien rappelé votre
maître
avocat.
Maître Pégan.
Merci Olivier.
Mais ça fait potentiellement 675 victimes, et on sait que dans ces cas-là, malheureusement, les auteurs, généralement, ils s'en prennent pas qu'à une seule victime. Il y a toujours des suites qui ne sont pas arrêtées. Donc ça fait combien de potentielles victimes en plus qui n'avait pas eu ce réexamen. Et pourquoi il y a eu ce réexamen, comme l'a dit M. De Villiers, je suis d'accord avec beaucoup de monde ce matin, c'est génial, c'est qu'il y a eu du bruit médiatique, c'est que c'est une justice, et du moins en tout cas des instructions du garde des Sceaux sur de la réaction, parce qu'il y a six mois, un an, on parlait quoi ? On parlait de la des aides mafia, on parlait des stupes et des règlements de compte.
Exactement.
On entendait parler des places, enfin des opérations XXL, je sais plus le terme exact, mais oui, on n'entendait pas parler de pédocriminalité. Donc au bout d'un moment, c'est de la réaction, c'est du média, c'est de la politique. Pour moi, il n'y a aucun fond. Et je suis
Gérald Darmanin, il voulait sauver sa peau aussi, parce que souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, certains demandaient sa démission après
bien
le fiasco judiciaire de Liana. C'est une façon aussi de sauver politiquement sa peau.
Non mais attendez, dès qu'il est arrivé
en mettant des mecs en tôle, c'est quand même incroyable.
Dès qu'il est arrivé en place, il a donné cette consigne à tous les parquets. C'est après les parquets qui malheureusement n'ont pas suivi. Il avait quand même donné la consigne de prioriser les dossiers de pédocriminalité. Donc ça a été fait. Donc on ne pouvait pas non plus faire en sorte qu'il démissionne.
Il y a un problème, c'est qu'il y a plein de priorités. C'est-à-dire qu'on dit au parquet priorité à la pédocriminalité, mais aussi priorité au narcotrafic. Donc à un moment donné, si
et Darmanin a beaucoup plus
priorité,
a beaucoup plus communiqué sur la lutte contre le narcotrafic que sur la pédocriminalité. C'est comme toute la classe politique qui s'improvise expert en lutte contre la pédocriminalité depuis l'affaire Liana. Darmanin, c'est la lutte contre le narcotrafic. Ce sont les opérations place nette dans les quartiers populaires. Et il ne parlait pas du tout de la protection de l'enfance.
Il y a des types actuellement dans les cellules. Il dit, mais pourquoi t'es là? Bah écoute, je crois que c'est parce qu'il fallait sauver le poste du garde des Sceaux.
C'est peut-être un peu ça.
Mais surtout, vous rendez pas compte aussi de la complexité de l'incarcération de ce type de personnes. Parce qu'ils sont incarcérés dans des quartiers particuliers, ils peuvent pas être mélangés avec d'autres détenus. Outre la surpopulation carcérale, ça met en difficulté, j'en suis quasi certain, l'administration pénitentiaire. Je pense que tout ça, c'est bien beau de faire de la communication, ça reste malheureusement de la communication. Il y a un vrai sujet de fond à traiter, et je pense qu'il faut reprendre le système de justice dans sa globalité, mettre des moyens.
Ce qu'il faut faire, Olivier, et mes chers grandes gueules, c'est qu'il faut suivre ces dossiers. Parce que là, on nous annonce, 1000 dossiers prioritaires, 675 personnes en prison, et dans 6 mois, On en sera où? Moi, je pense que dans 6 mois, il faut réinterroger ces chiffres. Où sont ces 675 personnes?
Dans 6 mois, c'est la campagne présidentielle.
Sont-elles toujours en prison? Les 1000 dossiers prioritaires, est-ce qu'ils ont été traités depuis 6 mois? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Alors, d'ailleurs,
c'est
reste toujours, en prison.
C'est le droit
chose.
De suite qu'il faut.
C'est surtout que les enquêtes avancent.
Et puis, pardon, il y a un autre scandale. C'est-à-dire que quand on suit un peu le dossier, vous avez le cas du centre de détention de Mozac qui est réputé pour concentrer beaucoup de détenus pédocriminels. Je sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur ce qui se passe là-bas ou des témoignages d'anciens surveillants. Là-bas, c'est Disneyland, hein. C'est pas aussi rigoureux qu'ailleurs. Et en plus, les mecs, ils sont tellement bien.
Tellement bien. Mais tu crois que d'être privé de sa liberté, c'est d'être bien?
Oui, mais
t'es enfermé dans ta cellule pendant 23 heures par jour.
Non, là-bas,
c'est juste pour dire, c'est une réalité, Abel. Je peux pas dire qu'ils sont bien parce qu'ils ont la télé, ils ont Canal+.
Renseigne-toi sur le centre de Mozac.
Mais rien à voir.
Mais
tu es quand même privé de ta liberté. Tu vois même pas l'horizon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as ta vue qui est bloquée par un mur.
Pour un violeur d'enfants, j'en ai rien à faire. Tu vois, parce que là, tu nous fais encore ton discours à la Banater. Mais oui, au bout d'un moment, ça casse les pieds. Au bout d'un moment, un violeur d'enfants, qu'est-ce qu'on s'en fout de sa liberté? Quelqu'un qui a sodomisé un bébé, qu'est-ce qu'on s'en fout de sa liberté? Ben oui, donc tu peux pas me dire, oh, le pauvre, il est là, il a pas de liberté. À Mozac, t'as des gens, ils ont des conditions de.
Je critique ce que tu dis en disant qu'ils sont bien là-bas. Tu n'es pas bien là-bas quand on se prive de ta liberté.
Les pénitentiaires de Mozac, ils ont des conditions de détention qui sont plus allégées. Ils sont libres, ils s'achètent des bagues sur Amazon, ils se marient entre eux. Va voir les dingueries, comment ça se passe. J'invite les gens à aller voir ce qui se passe au centre pénitentiaire de Mozac.
Non, mais c'est pas légion non plus, c'est pas la majorité.
J'ai parlé que de ce centre, parce que c'est un centre où beaucoup de détenus sont des pédocriminels. Voilà.
Je pense que sur les 675, il y a une part médiatique, qu'il y en a peut-être 300 qui devaient aller en prison. Et c'est du préventif, parce que c'est des gens qui ont été coffrés sur ordre politique.
Dans 6 mois, ils seront libérés.
Mais après, il y en a plein qui vont être innocentés et il va falloir les indemniser. C'est quand même incroyable. Tout ça pour sauver la peau d'un gouvernement en faillite.
Olivier, merci. Corinne est avec nous également. Bonjour Corinne. Corinne de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Bonjour
Corinne.
Comment ça va?
Bonjour. Ça va. Super. En pleine fête de Bayonne.
J'imagine. J'ai vu les images. Il y a du monde, hein.
On peut venir, Corinne?
Ah, mais avec grand plaisir.
Dites-moi, Corinne, ces chiffres, ça vous rassure en disant ça y est, ils ont enfin pris la mesure des choses et ils agissent, ou au contraire, vous dites, donc ça veut dire qu'il y avait autant de dossiers de personnes en liberté?
Bah, oui, c'est ça. En fait, non, mais alors, me rassurer, de la part du gouvernement, ça fait longtemps que ça n'existe plus, hein. Mais comme d'habitude, dans l'urgence, ils font des effets de manche, etc. Alors, très bien que ces 675 soient enfermés. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais à mon avis, ce n'est que le dessus de l'iceberg, malheureusement. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres là-dessus. Déjà, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais remercier Abel et Laura, je connais Laura, mais pas Abel, pour leurs interventions et pour leur combat, parce que vraiment, grâce à... Enfin, ils en parlent beaucoup et c'est très bien. Ils ont les médias, ils ont la chance d'avoir une parole, pardon, je vais y arriver, d'avoir une parole publique, et vraiment, je les remercie pour ça.
Merci.
Parce que je fais partie des victimes il y a très longtemps et il faut vraiment que ce sujet soit pris en compte. Là, en fait, c'est comme d'habitude, dans l'urgence, il a fallu qu'une petite fille de 11 ans décède pour que tout le monde se réveille. Et encore, un réveil très mitigé, parce que c'est des effets de manche, comme d'habitude. Ils vont nous faire des numéros verts, des machins. Et puis, en fait, voilà. Et puis, pour revenir sur ce que disait Maître Pégan, que j'aime beaucoup, hein.
Oh, merci, Corinne.
Mais par contre, vraiment, moi, le sort des prisonniers pédophiles, mais pareil, je suis comme Abel. Mais vraiment, je m'en fiche, d'une force. Et je reste, je veux pas être vulgaire parce que je passe à la télé, mais vraiment. Qui se fassent violer matin, midi et soir.
Le type qui est là pour sauver Darmanin, qui se fait violer en plus.
Non, vous ne pouvez pas dire ça, Corinne.
On ne peut pas faire de la provocation à l'infraction, Corinne.
Œil pour œil, dent pour dent, c'est pas la justice.
On comprend ce que vous voulez dire, on comprend ce rapport.
Moi, je comprends Corinne parce qu'on paye des impôts pour l'incarcération de ces gens-là.
Oui, mais parce qu'on n'est pas comme ces gens-là.
Je suis d'accord avec vous.
Ouais, mais on paye.
Ça m'énerve tellement et quand je vois. Enfin, je vous dis, quand on voit que la loi intégrale, elle sera. Vraiment, ils vont mettre le nez dedans au mois d'octobre.
Ouais, ils gagnent le temps à chaque fois.
Combien d'enfants vont être violés etc.
Oui, enfin, la loi intégrale sera pas non plus la réponse à tout, parce que, pardon Corinne, oui, j'entends beaucoup là les responsables dire la loi intégrale. Oui. Moi, sincèrement, j'ai regardé ce qu'il y a dans la loi intégrale. Mmh. Par rapport au fiasco de judiciaire de Liana, je pense, oui, que la loi intégrale n'aurait rien changé. Oui. Parce que, quand la maman de la petite Rosa se faisait envoyer paître, hein, j'emploie cette expression, par le gendarme, parce qu'elle appelait trop souvent pour savoir où en était la plainte qu'elle avait déposée pour sa petite fille qui se plaignait d'avoir été violée, la loi intégrale n'aurait rien changé. Oui, là, on était face à un comportement individuel insupportable, voilà, et derrière, on avait des magistrats qui se renvoyaient de dossiers, alors c'est pour toi, c'est pas pour toi, qui s'envoyaient des courriers plutôt que des mails, parce que c'est vrai que ça... Donc la loi intégrale, attention, on pense toujours en France, il suffit de voter une nouvelle loi pour régler un problème. La loi, elle existe déjà, hein. C'est puni tout ça, il suffit simplement que les gens se mobilisent et fassent leur boulot. Hein.
Ah, mais il y a quand même un élément.
Ils n'ont pas fait leur boulot dans cette affaire.
Il y a quand même un élément de la loi intégrale qui était d'ailleurs une recommandation de la CIVIS, c'est que le récit de l'enfant, une fois qu'on sait qu'il est vraiment vrai, qu'il y a les certificats médicaux, les examens psy, qu'il fasse office de preuve directement. Parce qu'en France, on demande à la victime de raconter le récit de ce qu'il ou elle a vécu.
C'est compliqué quand il s'agit d'un enfant.
Dizaines de fois, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cet animateur périscolaire qui a été relâché au bénéfice du doute, alors que 9 témoignages, 9 expertises médico-psychologiques. Et comme je l'ai dit la dernière fois, un enfant ne peut pas inventer d'avoir été pénétré avec une cuillère. Et on dit bénéfice du doute, et on a même dit que les parents avaient influencé le récit des enfants. Mais un enfant qui a entre 3 et 5 ans, c'est normal que quand tu es parent, tu orientes l'enfant en lui disant, écoute, raconte bien tel détail. Mmh. Les enfants, ils ont entre 3 et 5 ans. Donc, comment tu peux dire aux parents, vous avez influencé le récit de votre enfant?
Le parquet a fait appel. On verra
L'affaire n'est pas terminée. Merci Corinne d'avoir été avec nous ce matin au 32-16 dans les Grandes Gueules. Ce qu'on pouvait dire sur ces chiffres qui ont été révélés cette semaine par Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Dans un instant, la campagne présidentielle avec deux vieux briscards de la politique qui sont de retour à gauche.
Ils nous manquaient.
Qui ont bien l'intention de jouer un rôle de premier plan. Bernard Cazeneuve et François Hollande. L'un a été le premier ministre de l'autre. C'est à gauche. Ils se disent tous les deux sociaux-démocrates. Et tous les deux, ils ont un point commun. Ils ne veulent pas laisser le monopole de la gauche à Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que vous y croyez, Cazeneuve, Hollande? Est-ce qu'on a besoin d'hommes d'expérience? Je vois le sourire d'Abel Boyi. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2,
3, 4. 10h24, la suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, Sandrine Pégan, l'avocate, et Abel Boyi, l'éducateur. Tout à l'heure, c'est Mathieu Vallet, le député européen RN du Rassemblement National, Mathieu Vallet, qui sera face au GG. On lui demandera notamment si le fait que Elon Musk ait choisi Marine Le Pen comme candidate, est-ce que c'est un bon soutien ou pas? Voilà. Ou est-ce que c'est le baiser de la mort?
Et on va avoir une réponse assez compliquée.
Ah bon? J'espère qu'il sera plus simple, Mathieu Vallet. Donc tout à l'heure, face au GG, restez bien sûr bien à l'écoute. Tiens, parlons un petit peu de politique avec deux vieux briscards qui reviennent. Alors, on pourrait dire aussi tonton flingueur. Je sais pas si ça leur ferait plaisir, mais ça fait un peu ça quand même. Quasiment au même moment, on a donc François Hollande et Bernard Cazeneuve qui font parler d'eux. Alors, François Hollande, c'est avant-hier, il a réuni ses troupes et il a clairement dit qu'il se préparait, mais il ne participerait pas à la primaire. Mais si les conditions sont remplies, pourquoi pas ressolliciter un deuxième mandat, puisque la dernière fois, il n'a pas pu se représenter, il n'a pas voulu se représenter. Donc François Hollande se prépare. Et puis de son côté, Bernard Cazeneuve, qui a été premier ministre de François Hollande, qui a été ministre de l'Intérieur de François Hollande, lui aussi, à tel point qu'il a écrit une lettre aux Français, pour leur expliquer qu'il était prêt à y aller. Alors, il ne veut pas passer par la primaire socialiste non plus. Il se dit prêt à y aller. Alors, ce sont des hommes d'expérience qui ont déjà exercé le pouvoir, qui comblent sans doute un vide parce qu'au Parti Socialiste, ils ont du mal à se trouver de nouveaux leaders. Est-ce qu'on en a besoin de ces vieux briscards de la politique ou non? Le 32-16 pour intervenir. Emmanuel Devigné. Alors,
c'est amusant parce que Cazeneuve et Hollande, anciens ex-amis, sont quand même en compétition.
Oui. Derrière ils sont très proches. Ouais.
Derrière les tables d'ondo, ça rappelle un peu l'expression « En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne ». Non, ce qui est incroyable, c'est surtout Bernard Cazeneuve, car le président Hollande a une légitimité, il est ancien chef de l'État. On peut considérer qu'il a une possibilité d'envisager une candidature par principe. Mais Bernard Cazeneuve, lui, il est autoproclamé. C'est-à-dire que c'est une fabrication 100% Hollande. Il a d'abord été petit ministre, puis la nature ayant horreur du vide, et comme il est diplomate et un peu combinard, il s'est retrouvé propulsé jusqu'au poste. Alors là, c'est le miraculeux de Premier ministre. Et puis alors depuis, il dit, moi je suis un homme de devoir, alors on pourrait dire LOL MDR, et moi je voulais pas me présenter.
Non, je voulais pas du tout,
mais j'ai tellement de pression, tellement de personnes qui me disent que je suis l'homme de la situation.
Il fait don de sa personne à la France.
C'est ça.
C'est ça.
Et c'est pas normal, évidemment, au passage, qu'il ne se soumette pas à la primaire du Parti Socialiste, parce qu'il a beau trouver une astuce pour dire qu'il est ceci, mais pas cela. Quand on a un camp politique, il doit tout au Parti Socialiste. C'est trop facile d'esquiver et de laisser les camarades un petit peu dans la panade. Et puis alors, il a une formule extraordinaire. Là, il se prend pour Moïse. Il dit, je veux réduire la distance entre la France promise et la France vécue.
Oui.
Alors moi, je lui dis, Bernard, fume, c'est du belge.
En tout cas, je vous conseille de lire sa lettre, hein, qu'il publie librement, c'est un accès libre. D'ailleurs, sur le compte X des Grandes Gueules, Bernard Cazeneuve écrit « Aux Françaises et aux Français, ce matin, je vous écris une lettre pour dire comment, ensemble, nous pouvons tenir la promesse de la France. » Tenir la promesse de la France. Abel Boyi, est-ce que Bernard Cazeneuve, François Hollande, ils ont raison d'y aller? Est-ce qu'on en a besoin?
C'est vrai qu'après l'envie de Glucksmann, on sent l'envie de Cazeneuve et de Hollande dans la nation. Plus sérieusement, un candidat, c'est quoi? C'est quand même de la prestance, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. La majorité des gens ne lisent pas les programmes. C'est de la prestance, c'est une vision, et c'est 2-3 punchlines. Oui. Mon ennemi, c'est la finance, travailler plus pour gagner plus. Voilà, c'est 2-3 punchlines, c'est tout. Cazeneuve, pardon... Il a été très apprécié par les policiers lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il est consensuel, oui. Il a peut-être une certaine sagesse. Mais
il était le ministre de l'Intérieur, notamment pendant les attentats de
Paris. Exactement,
en fait.
Il a été très apprécié. Il fait toujours partie des ministres de l'Intérieur préférés sur ces 30 dernières années. Mais là, on parle d'être président de la République. Non, Bernard Cazeneuve ferait un bon secrétaire général de l'Élysée. Là, oui, tu vois, pour aider au Conseil, être le cerveau du président. Mais président de la République, non, au bout d'un moment, faut arrêter. François Hollande, là où il se trompe, c'est quoi? C'est que comme il voit qu'il a une petite côte de sympathie qui remonte, il se dit peut-être que je veux y aller. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle LFI et le Rassemblement National, aujourd'hui, sont en train de monter en puissance indépendamment du fait que l'on soit d'accord avec eux ou pas. Les gens veulent du renouveau, les gens veulent renverser la table. Et ce sont les deux seuls partis qui, en plus, n'ont pas été au pouvoir, même s'ils ont des accointances avec les pouvoirs passés, mais qui donnent l'impression qu'ils sont prêts à renverser la table avec une proposition de projet de société. C'est quoi le projet de société de Bernard Cazeneuve?
Alors, ce qui manque un peu, notamment, je trouve, dans la proposition de François Hollande. François Hollande, en fait, il veut être un recours. Il attend que Raphaël Glucksmann se plante.
Hein, bien sûr.
C'est ça, en fait. Il attend que Olivier Faure n'y arrive pas. Bon, ça, je pense que il aura raison. Mais, qu'est-ce c'est pour faire quoi en fait? Ça suffit pas de dire j'étais un ancien président, Emmanuel. Je suis désolé. Il y a quand même des sujets de fond. Mmh. En plus, on voit que la situation des finances publiques est dramatique. Donc le prochain président pourra pas faire des promesses. En tout cas, il ne pourra pas les appliquer puisque il faudra surtout faire des économies. Sinon, c'est le FMI qui s'occupera de nous. Mmh. Donc on a envie d'en savoir plus. On reste un peu sur notre faim, moi je trouve, non?
Mais ce qui est juste fatigant avec la gauche, c'est que on n'est pas forcément en manque de talent. Alors, vous verrez de l'ironie ou pas, mais c'est surtout qu'il y a un espèce d'excès d'ego. ils ont tous l'impression d'avoir trouvé la solution. Bernard Cazeneuve, là, quand il le dit dans sa lettre aux Français, j'ai l'impression que c'est Bernard Cazeneuve, c'est Neo dans Matrix. Tu vois, c'est l'élu, il a trouvé la solution, c'est le dernier recours. Mais parce que quand on voit le casting, bon, mon Dieu, ça fait un peu peur. Mais je me dis que même là, en fait, lui qui veut absolument ne pas être des primaires, ça veut simplement dire aussi que lui-même ne croit même plus que son camp est capable de sortir un leader incontesté. Donc en fait, on nous vend ça comme si c'était la solution, le mec qui va tout révolutionner. Alors quand même, mine de rien, sa démarche, elle est respectueuse, parce qu'il met en avant la dette, la souveraineté, tout ce qui est finances publiques, tout ça. Bon, c'est bien dans son projet, mais il n'incarne pas. Et c'est bien là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut quelqu'un qui puisse incarner cette fonction, la plus haute fonction de l'État. Et pour moi,
c'est ce qu'on évoquera d'ailleurs avec Mathieu. Voilà,
et puis les gens en ont tellement marre, ils veulent de la radicalité. On peut le regretter, mais les gens veulent renverser la table. Et il y en a marre aussi de ces candidats au charisme de Bob l'éponge, tout mou. Non,
le problème de renverser la table, c'est faut pas qu'il y ait les pieds en dessous.
Il y a des risques derrière, bien entendu, mais les gens, ils veulent du renouveau. Ils se disent, on a essayé la droite, la gauche, le bleu, le rouge, ça fait 40 ans qu'on essaye ça. Alors, maintenant, ils veulent.
On a beaucoup de réactions au 32-16. On a tout d'abord Jérôme de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Jérôme.
Salut, les amis.
Alors, bonjour. Que fait-on? Est-ce qu'on en a besoin de Hollande et de Cazeneuve dans le débat politique et dans le débat à la présidentielle?
Bon, on voit que dans le bloc central européiste qui va du PS au LR, ça commence à s'agiter comme dans une fourmilière ou dans une ruche. C'est-à-dire qu'ils sortent tous les noms inimaginables pour éviter l'irréversible, c'est-à-dire un second tour Marine Le Pen-Mélenchon. Uh-huh. Donc ça a testé De Villepin, ça a testé Blabla, ça a testé Blou-Blou, ça a testé Bibi, ça teste qui ils veulent. De toute façon, on va y arriver. Comme a dit Abel, tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs, je continue sur toi. L'irréversible, c'est que de toute façon, on va arriver à un second tour.
Mélenchon le même.
Ils peuvent agiter tous les noms qu'ils veulent.
Exactement.
Et je veux ce second tour. Là, les GG, tout simplement parce que ça montrera enfin, une fois pour toutes, qu'ils paieront les conséquences de leurs actes de 50 ans.
Exactement.
Bah, de merde. Voilà.
Mm-hmm. Donc, vous n'y croyez pas, c'est très clair, Jérôme. Moi, c'est clair, on a bien compris.
Ça, c'est oui.
Ce ne sont pas eux qui empêcheront ce second tour. Philippe est avec nous également. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour aux grandes gueules qui travaillent pendant les vacances. Ça fait plaisir au moins des gens qui bossent en France.
On va en prendre quand même des vacances, hein, mais à tour de rôle.
Vous faites bien, à tour de rôle, oui, comme tous les ans.
Alors Philippe, vous de Bonnel dans les Yvelines, est-ce que effectivement il était temps que les anciens reviennent?
Alors là, franchement, c'est une provocation. Monsieur Hollande a montré pendant son quinquennat chaque jour qu'il était totalement un nain politique. Il est incompétent, il a tout raté. Quant à Cazeneuve, je suis désolé, t'es ministre de l'Intérieur pendant les attentats, je suis désolé, mais toute la lumière n'a pas été faite et on peut pas dire qu'il était extrêmement brillant parce que, bon, on va pas revenir sur des souvenirs extrêmement douloureux, mais... Comment peut-on imaginer une seule seconde que les Français aient envie de ce genre de gens qui ont montré leur échec pendant des mois et des années? Mais enfin, je sais pas, faut être coupé du monde. Nous, on veut du sang neuf. Voilà. On veut des gens du terrain avec vrais projets, des gens qui vivent dans la réalité. Monsieur Hollande, il touche plus le terre. Là, je suis dans son fief en Corrèze, je peux vous dire. Je sais même pas comment il a fait pour être élu. Les gens, ils l'aiment bien comme ça pour boire un café, mais c'est tout. Ils ont pas envie de lui comme chef de l'État.
On peut avoir des surprises avec les Français.
Mais c'est qui pour vous les gens neufs alors?
Bah, les gens neufs. Sans dire que je vais voter pour eux, bah Bardella, il était neuf. Voilà. Bon, maintenant, il est plus dans le jeu, apparemment.
Non. Et Mélenchon, il est neuf?
Ah non, il est pas neuf.
Ah, voilà.
C'est un vieux.
Excusez-moi, l'offre, Marine Le Pen, c'est sa quatrième présidentielle, ouais. Jean-Luc Mélenchon également, donc François Hollande et Cazeneuve. Alors Cazeneuve, il s'est jamais présenté une présidentielle, mais François Hollande, il a été président, il n'y a pas beaucoup de neufs. Alors Édouard Philippe ne s'est jamais présenté, alors David Lisnard, Édouard Philippe ne s'est jamais présenté une présidentielle.
Oh, technocrate.
David Lisnard, il plaît bien, j'aimerais bien que Philippe de Villiers y aille aussi, enfin voilà.
Oui, ouais, qui est pas très neuf, hein, Philippe de Villiers. Excuse-moi Emmanuel, excuse-moi de parler de ton frère ainsi.
Au niveau du renouveau,
c'est ça. Des vieux peuvent être bons alors quand même.
Non, mais on prend les vieux bons, on prend les vieux nuls.
Je pense que ce que veut dire Philippe quand il parle de nouveauté, c'est pas forcément l'âge, c'est un nouveau projet de société, c'est une incarnation.
Bien sûr.
C'est ça qui manque. Et là, il y a rien. Non, mais Cazeneuve, Hollande.
Oui,
mais
il recycle les choses. Quoi,
merci
voilà.
Philippe. On va laisser le mot de la fin à Sébastien qui est avec nous également 32-16. Bonjour Sébastien.
Salut les grandes gueules.
Vous nous appelez de Haute-Loire.
Voilà, c'est cela. Voilà. Donc, ben, on veut du neuf. Et ben, il y en a un qu'on n'entend pas parler. Ça s'appelle François Asselineau.
Ah, François Asselineau.
Oui. On n'entend pas parler de ce monsieur.
Oui, enfin, il est pas vraiment neuf puisqu'il se présente à chaque fois.
Ouais, mais à chaque fois qu'il présente son programme, si on le lit en profondeur, il y a quand même beaucoup de choses qui sont d'aplomb. Donc, il faut quand même lire un petit peu ce qui se passe. Et ce sont des gens qui sont un peu plus d'aplomb que ceux qui sont pas, qui sont là, présents.
Ben François Asselineau, il a un profil très anti-système. Mais la question, c'est comment expliquez-vous qu'il cartonne sur les réseaux, mais que ça ne se convertit jamais dans les urnes?
Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Le premier tour, moi, j'ai voté François Asselineau. Et si au deuxième tour, on se retrouve avec Mélenchon, Le Pen, eh ben, je voterai Le Pen. Parce que on les a jamais vus au pouvoir. Et c'est quand même
Mélenchon non plus.
S'approche le plus.
Oui, voilà, mais donc on veut du renouveau, mais avec des vieux.
Vous pensez que M. Asselineau aura les 500 signatures?
J'aimerais. Ça serait une preuve que quand même il y a une démocratie en France. Ça serait une preuve.
Ouais. Mais est-ce qu'il aura le financement pour
On verra. Mais
il a déjà été candidat, donc il aura le financement. Ah, mais c'est des 500 signatures.
Après, il peut pas y avoir 35 candidats au final. Il y en aura une dizaine comme d'habitude.
On y arrive quand même là sur les
trois. Oui, mais au final, il y en aura qu'une dizaine. Tu verras. Rendez-vous en février et en mars. Tout ça va se décanter, comme on dit. Mmh. Et peut-être qu'effectivement, un Cazeneuve ou un Hollande aura réussi son pari. Soyons prudents. En tout cas, est-ce qu'on a posé une question sur le compte X des grandes gueules concernant Cazeneuve et Hollande? Oui, effectivement. Le retour des vieux briscards, ont-ils une chance? Vous dites non, pas du tout. À 95,2%.
Ça, c'est un encouragement.
Ah oui, ça.
4,8% de oui, c'est un début. 4,8%.
Oui.
C'est déjà mieux que le score d'Anne Hidalgo la dernière fois pour le PS.
Mieux que celui de Lassalle aussi.
Sachant que la barre de remboursement très importante à la présidence, c'est 5%.
Et oui.
Donc un petit effort encore.
Donc il ne sera pas remboursé.
Dans un instant, faut-il filmer le corps des athlètes féminines différemment, avec moins de gros plans? Est-ce que, en tout cas, on va mettre fin à certains cadrages. Il y a eu des recommandations faites à la télévision. Est-ce qu'on a raison de le faire ou est-ce que c'est du puritanisme? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
h 42, retour des grandes gueules sur RMC la radio, RMC Story la télé avec Sandrine Pégan, Emmanuel Devilliers et Abel Boyi. Dans un instant, on accueillera Mathieu Vallet, le député européen du Rassemblement National qui sera face au GG. Mais avant cela, je voudrais revenir sur des recommandations qui sont faites aux réalisateurs de sport pour filmer le corps des athlètes féminines. Fini les gros plans, un document de 23 pages a été rédigé. C'est la Fédération Européenne d'Athlétisme qui publie ce guide de 23 pages contre les cadrages sexualisés des athlètes féminines à la télévision. Ce sont trois championnes olympiques qui ont contribué à rédiger ces nouvelles règles de cadrage. Le guide interdit les angles bas, les gros plans sur le corps et les ralentis non justifiés techniquement. Alors ce sont des recommandations volontaires, sans sanction ni mécanisme de suivi, c'est-à-dire qu'on va pas fliquer, mais néanmoins ce document existe. Alors on va voir s'il est appliqué en France par exemple France Télévisions qui diffuse pas mal d'athlétisme. Est-ce que effectivement ça vous choquait ces gros plans sur des femmes qui sont peu vêtues, des gros plans peut-être trop sexualisés, ou au contraire vous dites attendez, il y en a marre de ce puritanisme, c'est un regard déplacé. En fait, quand on regarde une athlète féminine, on ne pense pas à ça. Le 32-16 pour intervenir.
Non, là, on est dans le délire du wokisme. Les plans sur les athlètes féminines sont exactement les mêmes que pour les hommes. Les coureurs du 100 mètres, les sprinteurs, ils sont habillés aussi de façon très 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 légère, on va dire. Et je pense que c'est important d'avoir l'expression faciale, de ressentir la tension. Et le pervers qui lui veut regarder.
Alors c'est pas la tête qui pose problème.
Oui, bien entendu.
C'est les fesses.
Mais chez les hommes, ce sont les mêmes plans. En fait, il y a pas des plans différents chez les hommes que chez les femmes. Oui. Donc tu vas pas regarder le corps de l'homme de la même manière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que celui qui est tordu dans sa tête, même si le plan est loin, ça va pas l'empêcher de non, penser d'une autre manière. Tendu,
c'est celui qui édicte les règles.
Et en plus, sur le téléphone.
Ce sont trois femmes hein, qui ont participé à ce document, trois championnes olympiques.
Oui, mais moi, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des scandales par rapport à cela? Franchement, je sais pas ce que les dames en pensent, mais les plans sont les mêmes pour les hommes, pour les femmes. Alors, il faut que ce soit appliqué maintenant à tous les sports. Donc, à la gymnastique, on fait comment maintenant?
Alors, en tant que
alors,
femme...
Alors, Sandrine Pégan, est-ce que c'est une bonne chose de fixer ces règles?
Déjà, arrêtons de caricaturer ce débat. On l'entend, même déjà sur ce plateau, Abel est juste à côté de moi, dit c'est encore du wokisme.
Bien sûr.
On pourra bientôt plus rien filmer. La question, elle est absolument pas là. C'est pas le sujet. C'est pas une question de morale. On n'est pas dans une espèce de croisade idéologique, on veut juste mieux filmer les athlètes. Pardon, mais quand il y a des images qui sexualisent une athlète, je ne vois pas
c'est
en quoi
alors un exemple
c'est une meilleure
qui
compréhension pour la
donc
performance.
Donc là, les images qui sont là, ça sexualise
mais c'est
du
pas
coup.
Celle-ci, on ne peut pas les montrer. Mais ça serait quand il y a un gros plan sur les fesses d'une athlète, quand il y a un espèce de
toi, tu
ralenti.
Tu vois des plans sur les fesses
mais
des athlètes
sûr,
souvent
quand tu les vois à la perche, etc. Oui.
Alors sûr. Voilà ce qu'ils ne veulent plus. Pas de plan prolongé sur des parties spécifiques du corps. Donc on imagine les fesses ou les
bah
seins.
Oui. Hein. Et quand il est derrière.
Pas de vue en contre-plongée, filmée par en dessous ou par derrière, et pas de ralenti non justifié. Ça va pas être simple
bah donc pour les
hommes.
Faire la même chose pour les
alors dans ce cas-là, tu as dit Abel, il faut le faire la même chose.
Bah
pour
oui,
les t'as
les mêmes plans.
Et en fait. Le réalisateur, il est là pour montrer la réalité de la compétition sportive. Oui. Là, on est en train de les faire passer pour des pervers. On a l'air de dire, comme s'il parlait à son caméraman, « Ah, il y a du monde au balcon, zoom, zoom, zoom !»
Oui, non, c'est vrai qu'il s'agit d'une suspicion. On pense que le réalisateur, finalement, jusqu'à présent, faisait des cadavres.
Alors, c'est la réalité. Le problème, il est dans la tenue des sportives. À ce moment-là, si on veut pas être montré dans ces tenues-là, on fait pas de compétition,
non,
on fait une autre
tenues,
chose.
Les tenues pour les athlètes féminines, elles sont déjà extrêmement moulantes. Mais parce que justement,
ce sont
ça,
les mêmes
mais
pour
ça,
les hommes.
Mais ça améliore leur performance. Je parle pour les femmes et je parle aussi pour les hommes.
Sportives.
Mais au niveau des tenues, c'est la fédération qui choisit. C'est pas le problème. Là, on parle du cadrage et c'est le réalisateur là qui réalise ce cadrage.
Un jour, on ne pourra plus les filmer parce que si on va jusqu'au bout de l'absurde, tu dis les tenues, bah oui, et on va pas leur faire changer de tenue parce qu'elles ont besoin d'être dans ces tenues légères pour faire du sport.
Vous mélangez tout. On ne parle pas de, on ne peut plus rien filmer. On vous demande de mieux filmer et arrêtez de filmer les parties intimes. Arrêtez de filmer avec des gros plans qui ne servent à rien. On est là pour l'exploit. On est là pour la performance.
Quand tu regardes
et sinon, vous détournez et vous fabriquez des images.
Quand tu regardes une course de 100 mètres, les plans majoritaires, ce sont les fesses et les seins des. Quand tu regardes pas le sport,
bah
pardon.
Si,
bah non,
et surtout l'athlétisme, j'en ai fait quand j'étais jeune.
Non,
donc oui, forcément,
fait,
c'est un écho chez
pas
moi.
Pour ça que, donc toi, les plans que tu vois, quand il y a une course de 100 mètres, de 200 mètres, de 400 mètres, ce sont les fesses et les seins des
et
femmes uniquement.
Et malheureusement, très régulièrement, pour qu'on en arrive à faire un guide de 23 pages, c'est que oui, ça pose un problème.
Moi, je
et c'est pas du wokisme.
Est-ce que c'est pas des personnes mal dans leur basket, c'est le cas de le dire, qui veulent emmerder le monde?
Éric est avec nous. J'aimerais bien que les femmes aussi nous appellent au 32-16, pas seulement les garçons. Éric est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Je vous écoute, ça me fait trop rire.
Qu'est-ce que vous pensez?
Pendant des siècles, le corps des athlètes a été mis en valeur par de très belles statues, par de très belles peintures et tout. Et puis alors là, maintenant, il faudrait
filmer
les gens à 1500 mètres de distance pour qu'on ne puisse rien reconnaître. Il faut surtout tout cacher. Bientôt, les athlètes, on va les avoir floutés. Non, mais sans déconner. Mais
donc vous dites attention à ce puritanisme.
Tout le monde n'est pas un pervers derrière sa télé.
Bah oui.
Essayer de voir une paire de fesses en gros plan ou un machin, faut arrêter. C'est un monde qui devient fou.
Mais parce que vous trouvez, Eric, sincèrement que...
On peut même pas filmer une jolie femme dans les tribunes sans se faire insulter.
Non, mais n'exagérez
mais
pas non plus.
On peut très bien. Moi, même moi, je vois, mais je regarde pas que les athlètes féminines. Je vois les mecs quand je regarde le 100 mètres ou autre chose.
Ce sont les bien volés.
Bref, je me dis que j'aurais pas dû arrêter le sport, tout simplement.
Et alors, le réalisateur qui va devoir filmer la Gay Pride, comment il va faire?
Oui, exactement. Non, mais c'est un truc de fou. Non, moi j'aime voir de beaux athlètes, de belles athlètes et tout.
Et vous voulez voir les corps?
Oui, mais dans leur entièreté, alors, dans ces cas-là.
Mais la majorité.
Mais pas ne faire que sur des plans.
Mais la majorité des plans, c'est l'entièreté.
Il faut qu'il y ait une utilité.
La course entière, tu sais très bien que les plans, ils sont larges. Tu vois tous les pilotes sur, tous les athlètes sur la ligne.
Ce ne sont pas ces cadrages-là qui posent problème.
C'est les gros plans, en fait.
Oui, mais les gros plans, tu les as à quel moment? Tu les as un petit peu avant la course. Et souvent, ce sont les visages. Oui, tu peux
pas. Non, c'est pas les visages. Sincèrement, regarde.
Assume leur présentation. Ce sont des championnes. Voilà, point barre. À partir du moment où elles sont championnes en compétition, on a le droit de les filmer.
La majorité des plans sont larges déjà. Donc,
Mais encore une fois, vous déplacez le sujet. Mais c'est bien. Remets l'église au milieu du village, s'il te plaît, Olivier.
J'essaie quand même de me souvenir des fois où je pouvais même me dire, ah, non, ça fait un peu trop ce plan un peu suggestif et tout ça. J'ai pas l'impression. Enfin, moi, ça m'a surtout sur des courses, etc. J'ai jamais pensé que le réalisateur était
pareil,
en train, par complaisance, de filmer.
C'est-à-dire c'est mettre la suspicion.
Ou... Mais oui. Donc enfin, je trouve qu'on fait peut-être même un procès d'intention aux réalisateurs de sport. En revanche, on montre effectivement des athlètes, des corps d'athlètes, mais ça fait partie de l'athlétisme par définition. Ou alors dans ce cas-là, on va tous on va soit les flouter, soit leur demander d'avoir un jogging. Enfin voilà.
Mais ce qui compte pour le réalisateur, pardonnez-moi messieurs, et j'ai pas le sentiment d'être en nombre inférieur parce que j'estime que justement je porte la voix des femmes.
En fait,
c'est que la vedette dans une retransmission sportive, c'est l'athlète, d'accord, c'est pas son anatomie. C'est
l'anatomie fait partie de l'athlète. Il faut arrêter un petit peu.
C'est la performance, c'est le geste qui est technique, c'est pas l'anatomie, c'est pas les fesses, c'est pas l'entrejambe. Pardonnez-moi.
Alors j'espère qu'ils vont pas continuer avec des recommandations pour la soirée Miss France parce qu'à ce moment-là on peut plus filmer.
Non mais c'est pas ça. Mais Miss France, ils ont mis des règles différentes. Elles sont un peu moins en maillot de bain visiblement. Mais je prends un autre exemple, un sport de MMA. Les mecs, ils sont torse nus, etc.
D'ailleurs,
qu'est-ce qu'on fait?
On peut en parler. J'ai même là où je me suis réveillée dans la nuit de samedi à dimanche pour Benoît Saint-Denis et pour Conor McGregor, où ça a duré à peine moins d'une minute par chacun.
Je pourrais dire que certaines femmes regardent ou certains hommes regardent le corps de ces hommes en sexualisant, en disant non, ils sont bien foutus.
Mais il n'y a pas de plan sur leur partie génitale, il n'y a pas de plan sur leurs fesses.
Mais
les gros plans, c'est sur le combat, c'est sur la lutte au sol. C'est exactement ce qui se passe contre la cage.
J'ai pas de gros plans sur les parties génitales féminines. Dans une course,
on peut dire que les réalisateurs font semblant de faire des groupes. Ce sont les mêmes plans que pour les hommes.
Eh ben vérifiez maintenant ce regard-là, vous verrez que c'est différent.
C'est sûr qu'on va
regarder différemment, vous allez dire ah ben oui, parce que malheureusement quand on fabrique des images qui sexualisent l'athlète, ça pose un problème.
Et vous vouliez en placer une, mais Sandrine elle parle beaucoup.
Oui, parce que les femmes monopolisent beaucoup trop.
Non.
Mais que feriez-vous sans nous?
Sont toujours en retard et conduisent mal.
Non, c'est ridicule.
Là, je suis une très bonne pilote.
Et en plus, est-ce que c'est une demande des femmes?
Ah ben tiens, on va demander à Joël qui vient de nous appeler. Merci Eric, merci d'avoir appelé au 32-16. Il y a Joël qui arrive du côté de la chapelle. Tais-toi, Réanville. Vous dites ça à qui? À votre mari ou à votre enfant?
Ah ben oui, à son mari. Tais-toi.
Joël. Joël, vous êtes en direct sur RMC. Joël.
Jojo.
Oh là là, ça gueule à la maison là. Joël.
Oui, allô.
Ben oui, vous êtes en direct, Joël.
Oui, je vous entends.
Oui, mais coupez le retour là, parce que là il y a un bruit. Coupez le haut-parleur, coupez tout.
Ah non.
Joël.
Oui, je vous entends.
Oui, voilà. Qu'est-ce qui faisait du bruit? C'était votre mari à côté?
D'accord, j'ai tout coupé là, je suis sur la télé là.
Ah. Bon, très bien. Oui, mais là, parce que en fait, coupez la télé, voilà, pour qu'on puisse parler. Voilà, Joël, tout va bien? Mais non, il faut couper la télé, Joël. En fait, c'est cool. Bon, c'est pas grave, on va vous rappeler, Joël. Bon, problème avec Joël. Il faut couper hein, pour qu'on s'entende bien en 32-16.
La pauvre.
Non, après, moi, ce qui m'interpelle aussi, ce sont trois femmes qui ont écrit ces recommandations. Trois championnes olympiques. Mm-hmm. Donc, c'est quand même des
gens qui sont dans la partie. Il y a bien une problématique. C'est un sujet.
Quand même, ouais.
Ce sont des championnes olympiques. Donc, peut-être elles-mêmes, elles se sont rendues compte qu'il y avait un petit problème dans la réalisation et qu'on insistait peut-être plus sur les parties du corps féminin que quand il s'agissait d'un garçon. Voilà. Non, mais il faut. Alors, Joël, attendez, Joël va mieux. Joël.
Mais elle allait très bien. Hein.
Allô, Paris. Je suis pas sûr, elle tousse maintenant. Alors, Joël, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a coupé la télé.
Joël.
Oui, je suis là.
Alors, ça y est, vous êtes dans une cathédrale. Non, Joël.
Non.
Bon, dites-nous, Joël, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est bien, effectivement, d'en terminer avec ces cadrages trop sexualisés?
Mais c'est pas sexualisé du tout, en
fait.
Mais non. De la solidarité avec moi, s'il vous plaît, dans les GG.
Est-ce que tu peux laisser Joël parler,
allez,
s'il te plaît.
C'était difficile déjà. Joël, terminé.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que moi, quand je vois ces athlètes, elles sont magnifiques, elles ont des corps superbes, et il n'y a pas de cadrage qui sont obscènes ni rien. Non, franchement, ça commence à bien faire, quoi. Ce sont des athlètes, elles ont des tenues qui sont magnifiques, elles font voir des corps d'athlètes qui sont magnifiques. Alors, on interdit tout maintenant. Alors, même quand on va aller voir des compétitions de natation, il faut qu'elles se mettent quoi, les filles, pas de maillot de bain. Non, mais c'est... arrêtez avec tout ça, c'est nul. Laissez-les tranquilles. Ce sont, moi, quand je regarde les athlètes féminines, mais je me dis, mais quelle merveille elles sont, quoi. Puis en plus, elles ont des tenues magnifiques, elles ont les ongles tout faits, et moi, je trouve ça superbe.
D'accord, Joël. Ben voilà, c'est dit. Merci, Joël. C'est vous qui aurez
l'intervention magistrale.
C'est vous qui aurez eu le mot de la fin. Merci, Joël. Dans un instant, Mathieu Vallet, le député RN, député européen, face aux grandes gueules sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.